Boomerang avec Sampé ce matin, l'immense dessinateur qui n'accorde aujourd'hui que très peu d'entretien. J'étais allé le voir pour parler de musique dans son appartement sous les toits de Paris. C'était merveilleux. Sampé dans Boomerang, c'est parti. Et si, un matin, un seul, on essayait d'être léger, prendre par défaut l'actualité et proposer, allez, un bref éloge de la légèreté, vider ses valises ou s'en aller sans bagages, comme dans la chanson de Barbara, « Le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages, que m'importe après tout ce qu'il y aurait dedans », pour partir ensemble vers un nouveau printemps, filer, décamper, déguerpir, fuir, préférer chanter ou danser maintenant, tant pis pour les fourmis, sauter de son lit ou sur le lit, comme un défi aux forces d'inertie, choisir le rire, décider, même si c'est déplacé, que ce matin seulement, on restera indifférent. Plus difficile à dire qu'à faire, mais je vous garantis, c'est emballant. Faire preuve d'inconstance, d'irréflexion, d'inconséquence, dire non à l'esprit de sérieux, lui préférer l'esprit sérieux, se moquer de l'ordre moral, miser sur la souplesse, la fluidité, la liberté, la possibilité de la légèreté, quand bien même elle serait insoutenable, parfois, disait Kundera, quand l'absence totale de fardeau fait que l'être humain s'envole, s'éloigne de la terre, de l'être terrestre, qu'il n'est plus qu'à demi réel et que ses mouvements sont aussi libres qu'insignifiants. Osons la légèreté aujourd'hui seulement.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang, qui mieux que mon invité d'aujourd'hui pour nous parler de légèreté. Lui dont les dessins, depuis plus de 60 ans, nous émerveillent par leur drôlerie, leur fantaisie, leur poésie. Vous connaissez son petit Nicolas, son amour de New York et de Paris. C'est le mélomane que l'on redécouvre grâce à ce livre de planches intitulé « Musique » au pluriel, qui reparaît ces jours-ci aux éditions de Noël. Bonjour Sampé.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour vous que la légèreté?
Bah, justement, écoutez, je cherche à ne pas être lourd, et comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai quelques difficultés à ne pas l'être. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la légèreté? Mais tout ce qui est beau est léger.
Comment ça s'incarne pour vous, la légèreté? Qu'est-ce que ça veut dire, être léger?
Une sorte d'élégance.
Notre époque, vous la trouvez légère?
Ah non, ça pas du tout. La légèreté a disparu en même temps que la bonhomie. Il y avait des choses que j'adorais. Vous savez, je suis un provincial. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais été enchanté par la bonhomie des Parisiens. Je venais de Bordeaux. Les gens sont pas très gays là-bas, n'étaient pas très gays là-bas. Et ici, j'étais ébloui. On m'offrait à boire, il fallait que je boive. Je passais des journées assez difficiles. Mais je sais pas, j'ai adoré cette époque de la bonhomie qui a disparu maintenant avec la rapidité, avec la brutalité de la circulation, de la communication.
Et puis parce qu'on est happé, dites-moi si je me trompe, quand même, par des nouvelles tragiques aussi. Vous suivez l'actualité, vous?
Bah oui. Je la suis, elle me rattrape.
Léger, vous l'avez toujours été, vous?
Ah, je me suis efforcé de le devenir.
Et comment on fait pour rester gai, pour rester léger?
Ah, il y a certains jours où je me le demande, mon cher.
Vous n'avez pas un secret à nous révéler?
Oh, le secret, vous savez, ce sont les gens que j'ai aimés qui m'ont aidé à croire à la légèreté.
Et écouter de la musique, est-ce que ça aide?
Bien sûr.
Si je vous dis Réventura, par exemple.
Oh, Réventura, mais j'ai adoré.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Oh, j'ai adoré ça, hein. J'ai adoré Réventura.
Est-ce que ça provoque chez vous, ce morceau?
Oh, c'était la joie. Il y allait avoir de graves pépins. C'était à la veille de la guerre. Et ben, ces gens, sachant ce qui allait leur arriver, il y avait quand même beaucoup de juifs dans leur fête de Réventura. Et ben, trouvaient le moyen d'être gais et légers. C'était comme ça. C'était leur nature. Ils ne pouvaient pas s'en empêcher.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Les parapluies restent chez eux,
les
cannes s'en vont au bal musette.
Levez la tête,
les amoureux,
qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Ce titre de Paul Misraki, interprété donc par Ray Ventura, sans paix, vous le racontez dans le livre, c'est la première chanson qui vous est emballé. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Vous aviez 5 ans. Comment vous l'avez découvert, ce morceau qui a changé votre vie?
À la radio, je passais mon temps à écouter la radio.
Il paraît que vous trifouillez les boutons même.
Oui, je n'arrêtais pas. Je passais mon temps à ça dès que j'avais un peu de temps.
Pourquoi?
Pour chercher des morceaux de musique qui me plaisaient.
Vous faisiez ça la nuit?
Ça m'est arrivé, oui, je redescendais de ma chambre. Oui, j'aimais m'écouter à certains moments la radio américaine. J'ai entendu Duke Ellington parler, j'étais tout étonné, tout intimidé, tout... Ah, c'était pour moi, c'était une époque très merveilleuse, auditivement parlant.
C'est aussi par ce poste de radio que vous avez découvert et rencontré Charles Trenet?
Tous, oui, par ce poste de radio, oui, bien sûr. Charles Trenet, tous les gens, Mireille, la délicieuse Mireille.
Le petit chemin.
Oui.
Vous dites qu'à cette époque, dans votre enfance, la musique, elle vous a sauvé.
Oui.
Sauvé de quoi?
Je n'avais pas une vie facile. Vous savez, ça arrive parfois. Alors, j'étais dans des conditions qui étaient très difficiles. Et grâce à la musique, je me suis raccroché à une chose qui me plaisait et qui me plaît toujours, c'est la musique.
Et le dessin, il vous a sauvé aussi?
Je sais pas si je peux dire ça. Parce que premièrement, ce serait fort prétentieux. Et non, pas de la même façon. C'était comme ça, vous savez, c'est plus facile de trouver du papier et un crayon qu'un piano.
Vous auriez aimé être musicien?
Ah oui.
Et parmi tous les musiciens que vous admirez, ils sont nombreux, auxquels est-ce que vous aimeriez ressembler?
Duke Ellington.
Oh.
Ah, c'est celui que j'adore. J'adore.
À quel morceau est-ce que vous pensez quand vous pensez à lui?
Tout ce qu'il a composé, le brave... Ellington.
Un exemple?
Satin Doll. Vous connaissez tout ça, Texier Drain. Tous les morceaux qu'il a composés pour son orchestre.
Tiens, Take the A-Train. Ellington, vous l'avez dessiné sans paix?
Oui.
Souvent?
C'est-à-dire que je n'ai pas souvent réussi. Non. Il avait un regard d'enfant souligné par des poches gigantesques sous les yeux. Et c'était fantastique, c'était très joli parce que on avait vraiment l'impression que sous son regard d'enfant, à l'œil gauche, dans cette poche énorme qu'il avait, il y avait Manhattan et Harlem. Et sous la poche droite, il y avait tout son orchestre, sans lequel il ne pouvait pas vivre.
Alors qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans votre dessin?
Vous savez, quand un dessin ne fonctionne pas, c'est très simple, c'est qu'il est loupé.
Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que Duke Ellington, vous avez joué avec lui au piano pour un morceau à quatre mains. Vous vous souvenez, c'était chez Eddie Barclay à Saint-Tropez, il paraît.
Oui, mais ça, c'est un des... une des épreuves agréables de ma vie. Bien que, oui, j'étais en train de pianoter, je croyais que j'étais tout seul. Et il a posé sa main sur ma épaule, puis il m'a dit, c'est pas si mal, tiens, alors écoutez, faites la main droite, moi je fais la main gauche, la plus difficile.
Le rêve quand même pour vous.
Oh, c'était merveilleux, c'était délicieux.
Et vous lui avez posé une question, délicieusement farfelue. Vous lui avez dit, quand vous avez un trompettiste d'1m90 qui est malade et que vous le remplacez au dernier moment par un petit trompettiste, comment vous faites pour le costume ?
Oui, je me suis toujours demandé comment ces gens de scène et de talent et de travail trouvaient le moyen d'arranger les difficultés matérielles. Mais Ellington, il pensait que, bien sûr, comme tout le monde, j'allais lui parler de l'âme noire dont il se fichait complètement. Mais non, il était content de voir que je m'intéressais au côté désagréable de son existence.
Puis surtout, vous avez fait preuve d'une légèreté absolument rafraîchissante, Sempé.
Je ne sais pas, peut-être que oui.
Qu'est-ce qui fait alors pour vous la spécificité du jeu de Duke Ellington ? Qu'est-ce qu'il a de plus que tous les autres ? Qu'est-ce qui le rend unique au point que vous dites que le jazz est mort avec lui ?
Ah, pour moi, oui. Parce qu'il a tout rassemblé, il a rassemblé toutes les musiques, il était très savant, il était très travailleur aussi. Et avec son ami Billy Strayhorn, ils ont fait des chefs-d'œuvre.
Et puis son swing aussi, non ?
Ah ben oui, c'est une façon de jouer qui est très particulière.
Qu'est-ce que c'est le swing pour vous ?
Ah, c'est un décalage. Ben le swing, comme le dit le mot, c'est un balancement. À la boxe, un swing, c'est quand vous balancez quelque chose.
Et un bon dessin, est-ce qu'il faut qu'il ait du swing ?
Ah, il faudrait. Les bons dessinateurs l'ont.
Enfin, rassurez-moi, Duke Ellington, c'est quand même pas le seul artiste du monde à avoir eu le swing. Gershwin, par exemple, il l'avait aussi, non ?
Ah oui, mais Gershwin était un merveilleux compositeur.
Pareil que The Man I Love, c'est un des premiers morceaux que vous avez tapoté au piano.
Oui, que j'ai trouvé comme ça, oui, ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Ah, vous savez quoi, j'ai envie qu'on l'écoute. Dans une version chantée par Billie Holiday, The Man I Love. Je vous dirai pas qui c'est, vous êtes sur France Inter avec Sempé, vous écoutez Boomerang et c'est un beau lundi matin.
Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday. Maybe Monday, maybe night. Still I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. Oh, what would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. I'm sure. sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. What would you do? And so all else above, I'm dreaming of the man I love.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ne cherchez plus, je l'ai trouvé. The man I love, l'homme qu'on aime même forcément un petit peu trop, avec sa bouille ronde, ses yeux bleus, ses cheveux blancs ramenés en arrière, cette inimitable bonhomie dont il nous parlait tout à l'heure, cette envie de l'entendre encore et encore nous raconter sa vie, avec sa chemise blanche, sa cigarette électronique dans la poche gauche de sa chemise, donc son pantalon noir et ses chaussures. Il y en a deux même, des cigarettes électroniques. Jean-Jacques Sempé, invité exceptionnel de Boomerang pour la reparution de son livre Musique, un bien swingant livre de dessin. Et en vous parlant ce matin, il y a un de ces dessins qui me vient tout de suite à l'esprit, Sempé. C'est celui d'un petit groupe de musiciens sur un quai de gare, désert. Regardez leur tenue colorée qui forme une petite tache dans l'immensité lumineuse de la gare avec sa verrière. Qu'est-ce qui vous l'a inspiré, ce dessin? Vous vous souvenez?
Ah oui, je me rappelle, je ne sais pas ce qui me l'a inspiré, mais je me rappelle quand je l'ai fait. Oui, je m'étais toujours posé la question que ça doit être drôle quand des musiciens partent en voyage avec l'instrument, leur instrument qu'ils transportent. Ils doivent avoir un sentiment de sécurité, ils se dépaysent, mais ils ont avec eux l'essentiel de ce qu'ils sont. Je les envie beaucoup, moi. Beaucoup, beaucoup.
Et puis le musicien amateur aussi. J'ai l'impression que vous l'aimez, cette
figure. Évidemment, parce que ce serait me renier que de ne pas aimer ces gens-là.
C'est peut-être les heures qu'ils passent à travailler, les musiciens, oui. Je me disais, qui vous intéressent. Au fond, c'est ce qui rapproche votre pratique du dessin de celle de la musique. Le travail. Est-ce que parfois, vous avez eu l'impression de passer plus de temps devant votre table à dessin qu'avec vos proches, d'avoir passé plus de temps à dessiner qu'à vivre, tout simplement?
Ah mais oui. Oui, même que je peux vous dire tout de suite que je n'en tire aucune fierté. Au contraire, je trouve ça un peu stupide de ma part.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour, cet air me rendra folle. 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix court ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 et me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 les je t'aime de
tu en voilà par paquet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Regardez du chagrin pour après, j'en ai tout un solfège sur cette air qui bat comme un cœur de bois.
Des musiciens, vous en avez dessiné beaucoup, Sempé, du soliste à l'orchestre tout entier, de la petite fille qui travaille un allegro sur le piano à queue, du salon à l'orchestre amateur qui répète dans un parc en plein été. Qui dit musicien dit forcément instrument. Quel est l'instrument que vous préférez dessiner, tiens ?
À dessiner, alors je crois que c'est la contrebasse.
Ah bon, pourquoi ?
Ce sont de jolies formes, ce sont de jolies arabesques. C'est un très 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 bel instrument. Contrebasse ou violoncelle, bien sûr. Mais puis j'aime beaucoup dessiner. Enfin, essayer de dessiner des saxophones dont je fais le bec à l'envers, d'ailleurs.
Pourquoi ?
On me l'a fait remarquer, je me trompe. Il faudrait que je tourne l'embouchure des saxophones que je dessine.
Et le piano ?
Ah, le piano. Piano, c'est très joli, un piano. C'est très beau.
Qu'est-ce qu'il y a de beau dans un piano ?
Oh, c'est une merveille. Pour le moment, la forme est très belle. Le clavier est d'une beauté blanc et noir remarquable. Et puis, quand on soulève le couvercle, qu'on voit l'intérieur, toutes ces cordes, tous ces petits marteaux, c'est très impressionnant.
Depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de jazz. Moi, quand je pense au piano, c'est pas forcément à du jazz que je pense, c'est à Debussy, et plus particulièrement au troisième mouvement de la suite Bergamasque, le clair de lune. Si vous essayez de l'entendre, là, tout de suite, maintenant, dans votre tête, il arrivera sans paix, ce
mais
clair
oui.
de lune.
Mais oui, mais c'est une chose que j'adore. Mes chers amis Ellington et Mizraki, Gershwin, adoraient Debussy.
Clair de lune de Claude Debussy, interprété par Aldo Ciccolini. À quoi vous pensez quand vous l'entendez, cette musique ? Quelles images, quels dessins vous viennent à l'esprit, Sempé ?
En dessin, je ne peux pas dire ça, parce que il faudrait que le brave Léonard de Vinci revienne pour m'aider. Alors, c'est d'une beauté absolue.
Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Ah, je crois que c'est la beauté à l'état réussi, pur. Il a réussi son coup parfaitement.
Si vous aviez la chance de le rencontrer, Claude Debussy,
quelle question
est-ce que vous aimeriez lui poser ? Vous pouvez tout oser.
La première question que je lui poserai, pouvez-vous de temps en temps venir m'aider ? Ça, c'est bien sûr.
Et la deuxième ?
Et la deuxième serait, j'espère que ça ne vous ennuie pas trop.
Je vous pose aussi la question, parce qu'il paraît, dites-moi si je me trompe, qu'à une époque, avant de vous endormir, vous organisiez le vendredi soir, dans votre tête, dîners où vous réunissiez des grands musiciens comme Debussy, Ravel, Duke Ellington, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est une habitude que j'avais prise étant gosse. avant de m'endormir, nécessairement, je me racontais des histoires. Ce pouvait être un match de football, ce pouvait être n'importe quoi, mais de plus en plus, la musique s'est imposée. Et je m'imaginais que j'avais un appartement assez grand et que tous les vendredis soirs, j'organisais un grand dîner avec des tas de musiciens que j'adorais. Et c'était merveilleux parce que parfois, je m'endormais là-dessus. Et comme j'ai une sorte de maladie, je suis un peu médium, donc c'est pas enviable, je vous assure, c'est pas drôle d'être médium. Alors, je pouvais presque canaliser mes rêves après.
Et ça se manifeste comment, ce don de médium ?
Vous dites et vous pensez des choses en vous demandant d'où ça vient, qu'est-ce qui vous prend. Voilà comment j'ai découvert ce don qui m'a empoisonné à une époque réellement la vie. Un jour, je faisais du ski tout seul dans un endroit. Quand on m'appelle, c'était une amie belge qui était avec un groupe de gens fort sympathiques. Je pars avec eux et le soir, ils me disent « Allez, tu vas pas nous laisser, viens dîner avec nous ». On installe la table, on me dit « Tiens, toi qui aimes tellement le sport, mets-toi à côté de Jeff ». Tu sais, c'était un international de basket belge, me dit-on. Or, je ne veux pas offenser qui que ce soit, mais je ne me suis jamais intéressé au basketball, pas du tout. Et encore moins au basketball belge. Il n'y a aucune raison. Et je m'entends dire cette chose qui me venait de je ne sais où. Je dis en m'asseyant, ah, je n'aurais jamais voulu jouer au basket parce que j'aurais toujours eu peur de crever l'œil d'un copain. Et je me demandais d'où ça me venait, parce qu'alors après on m'a engueulé, on m'a dit « Mais tu as vu, tu as bien vu que ce brave type, Jeff, là, boit énormément ». Je dis « Ah oui, ça pour boire, il boit ». Ben oui, tu sais pourquoi ? On m'a dit « Parce qu'il a crevé l'œil de son copain en jouant au basket ».
Wow !
Alors, vous savez, ça m'a rempli de terreur, parce que plusieurs fois j'ai fait des choses comme ça. Très emmerdant.
Jamais vos dessins n'ont révélé quelque chose ?
Oh non.
Que vous ne sachiez pas auparavant ?
Écoutez, ce que mes dessins m'ont révélé, ça il ne faut pas être médium pour le savoir, c'est que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit.
Dites-moi, dans vos dîners que vous organisiez dans votre tête, est-ce que Michel Legrand était invité ?
Ah ben oui.
Je suis rassuré, parce que sinon il aurait été furieux, Michel.
Ah non, mais il est venu à partir d'un certain moment, oui, bien sûr.
Et vous les organisez toujours, ces petites sauteries entre musiciens ?
Ah, mais je ne rêve plus comme ça, c'est fini.
Il paraît que vous avez été obligé de les interrompre à cause d'Éric Satie qui critiquait Maurice Ravel.
Ah oui, mais Éric Satie m'a fait un sale coup.
Vous nous racontez.
Ah, j'étais fou furieux. Éric Satie déclare un jour, comme ça, devant tout le monde... Ravel a refusé la Légion d'honneur, mais toute sa musique la réclame. Et il était content, il était fier de lui. Et le pauvre Ravel a fait une tête épouvantable. Alors j'avais dit à Satie, écoute, je peux pas te virer. Mais du coup, j'interromps mes dîners. Pourquoi as-tu dit une telle bêtise, d'une telle méchanceté ? Et tout ce qu'il trouvait à me répondre, c'est... avec son lorgnon comme ça. Ah, mais c'est comme ça. C'est amusant, c'est comme ça, c'est amusant. Et voilà.
Vous êtes un rêveur, vous, Sempé ?
Ah oui. Oui, c'est même ma caractéristique la plus constante.
En ce moment, qu'est-ce qu'il y a dans vos rêves ?
Mes fameux rêves médiumniques ne me hantent plus. Je suis bien content. J'en suis débarrassé. Et je rêve toujours les mêmes choses, moi. Les rêves. Sachez que, par exemple, je viens de passer une période où régulièrement, je rêvais que Renaud de la Villénie, le sauteur à la perche...
Le perchiste.
Le perchiste, fantastique athlète, qui saute très, 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 très haut, m'avait dit, écoute, je vais te montrer comment on fait. Et moi, j'avais une trouille horrible. Je lui disais, mais c'est pas possible. Je peux pas faire ça à mon âge. Mais même tout jeune, j'aurais pas pu non plus. Et alors, régulièrement, je rêvais qu'on essayait. Et de la Villeneuve me montrait où planter la perche, comment faire pour que la perche ploie. J'avais une trouille, même en rêvant.
Est-ce que vous avez fini par vous envoler ?
J'ai fini par passer par-dessus une barre. Je ne pense pas qu'elle était très haute.
Merci infiniment, Sempé.
Merci, vous êtes très aimable.
Toujours, tout de suite, instant M, juste après ça.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu devinez que des dieux se cachaient sous des faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on dit. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit,